communauté chrétienne se déployant progressivement, mais vraiment progressivement, la conviction, l'éclairage, la certitude de ce que Marie a fait et du destin de l'humanité, parce que Marie est bien de notre race, à la fois collaboratrice de Dieu, rien de ce qui se fait et de la venue de Dieu ne peut se faire sans elle, et donc rien ne peut se faire sans nous, mais aussi, et ça va être cette déclaration hein, de l'Assomption de Marie, en déclarant qu'elle est pleinement dans la gloire du Père, elle est et qu'on va célébrer, et que la célébration est venue très tôt dans l'Église, de célébrer cette que les orthodoxes appellent la dormition de la Vierge, que progressivement l'Église universelle va appeler l'Assomption de la Vierge. La Vierge Marie est déjà pleinement dans la résurrection. Et qu'est-ce que c'est que d'être dans la résurrection ? Ben, si ce n'est dans l'acte créateur de Dieu, c'est d'être elle aussi dans une mission qui n'est plus seulement sa mission en Israël auprès du petit Jésus avec Joseph, mais qui est de faire sa mission auprès de l'humanité comme nous le ferons avec elle. Et c'est pour ça qu'on va parler traditionnellement Marie première en avant de nous. Oui, Marie, première en avant de nous, merci pour ton oui, et tu nous entraînes. Seigneur, toi le vivant, toi qui n'es que tendresse et bonté, toi qui fais et fais encore, sois béni de ta présence, sois béni de cet affolant amour pour nous, qui nous fait te répondre, mon Seigneur. À qui irions-nous ? C'est toi qui les as, les paroles de la vie. Sixième jour. Vendredi, sixième jour. Vivre en fils du Père, construire le monde qui vient. Et il en a cette parole de saint Paul aux Corinthiens, hein, qui leur dit, qui proclame, ce sera très souvent les paroles de saint Paul, nous sommes les collaborateurs de Dieu, ou les coopérateurs de Dieu. Et puis, la clé de ce jour, c'est le bilan. Il fait que nous aurons un petit enseignement là aujourd'hui. Hein. On arrêtera l'enseignement sur les coups de 10h30, 11h-20, pour pouvoir prendre du temps de bilan. Et puis, je ne sais pas combien, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure de travail pour essayer de récolter tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine, pour bien l'affermir, hein, parce que rien ne se fait sans notre conscience, même si la semence pousse le jour, la nuit, que ça se fait comme ça de toute façon, nous sommes des êtres qui sont appelés à devenir conscients et choisissants et de volonté. Et donc, que s'est-il passé au cours de cette semaine ? Quels sont les éclairages ? Quels sont les appels intérieurs ? Et puis, on aura un moment aussi de partage. Et comme on va rester ensemble pour partager ces bilans, eh bien, il nous faudra du temps. Donc, voilà donc notre programme. Et donc, avec un enseignement plus court. Alors, ne serait-ce que de reprendre, hein, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que c'est que les médiations ? Teilhard de Chardin et la Bertonnière ne nous ont parlé que de ça, presque. En nous disant déjà qu'il n'y a pas d'accès à un Dieu tout nu. Dieu tout nu n'existe pas. Hein? Il est habillé. Il est habillé de sa création tout entière. Il est habillé de il est habillé. On ne peut pas accéder à Dieu tout nu. Et c'est un leurre extraordinaire, cette aventure de vouloir faire le vide, le vide, le vide, le vide pour trouver Dieu. Ça, et au contraire, hein, c'est en ouvrant ses yeux, bien qu'on ait ces temps de recueillement intérieur, mais c'est de voir, c'est de réfléchir, c'est de lire la parole, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, ça va être toute cette affaire des médiations. Comment est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur? Comment est-ce qu'on le voit? Comment il vient à notre rencontre? Et c'était pour moi extrêmement important. J'étais au cours d'une session, d'une rencontre avec le père Florin Calran, donc de la Roche d'Or. Et on était à table et puis on partageait justement, on avait un moment de partage sur ce qui s'était passé dans la matinée et j'explicitais comme j'avais vécu un moment de détresse intérieure de ne pas savoir comment pouvoir rejoindre mon Seigneur. Qu'est-ce que j'aurais à faire pour pouvoir vivre en communion avec Dieu, savoir ce que j'avais à être, à dire, à faire. Et c'est une de mes paniques continuelles quand je suis devant vous. Qu'est-ce que j'ai à dire? Que faire? Comment avoir le Saint-Esprit? Et j'expliquais ça et Florin, qui était assis à côté de moi, il m'a tendu un verre d'eau. Il m'a dit: bois. Et là, ce jour-là, j'ai compris. Ça s'est fait comme ça. Dieu vient à notre rencontre par tout ce qui nous entoure. Il n'est pas loin de nous. J'avais soif, il m'a donné à boire. Par quoi? Teilhard nous le dit, il n'est pas loin, partout. Dès qu'on quitte l'apparence, le grand danger, c'est d'être dans ses pensées, ses désirs, c'est d'être enfermé par tout ça, de ne plus rien voir, ne plus voir le réel. Alors tout va nous parler. Comment se fait-il qu'on ne s'enfonce pas d'un seul coup? C'est qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Et saint François dirait la terre ferme. Voilà, je suis soutenu en ce moment. Je ne m'enfonce pas. Non. De l'air entre dans mes poumons. Il y a ces jeux de la lumière qui sont là. Voilà. Où donc est Dieu? Alors voilà, ça sera la grande aventure des médiations, parce que l'aventure de la discrétion de Dieu l'invite continuellement à ne nous parler que par mode de discrétion. Alors en arrivant ici, moi aussi j'étais, mais qu'est-ce que je vais dire? Et puis il y a eu, qui m'ont accueilli, vraiment accueilli, quand je me suis assis là, il y avait, Teilhard était là. Et Teilhard, d'un seul coup, m'a dit, mais je suis partout. Le Seigneur me disait, c'est cette parole que j'ai reçue de Teilhard, vraiment, quand j'ai lu ces passages, de cette illumination, de cet enflammement de l'univers tout entier, ah, quel bonheur intérieur, reprendre cette parole. Et qui était déjà dite à qui? Mais c'était la parole dite à Moïse dans le désert, quand il voit ce buisson ardent. Qu'est-ce que c'est que ce buisson ardent? Bien sûr qu'il n'y a pas eu un feu, une flamme, un buisson qui se met à flamber. D'un seul coup, il découvre que Dieu est dedans et avec, qu'il est flamboyant, il est partout. Particulièrement aussi dans les œuvres des hommes. Alors, je suis passé au sanitaire là-bas, et je me disais, tout ce travail des hommes, toutes ces inventions, tous ceux qui au quotidien, aujourd'hui, là, demain, hier, avant-hier, ont travaillé, fait que il y a cette huile, il y a cette charpente, il y a tous ces matériaux de construction particuliers, là, il y a ces sanitaires, il y a cette invention des mécaniques, là, et puis, hop, et puis qui va là-bas, ce champ d'épandage. Mais où donc est Dieu? Alors, c'est ça les médiations. Et puis, alors, bien sûr, puisque tout est là pour nous parler, les médiations sont plus ou moins claires. Et Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il attend, c'est des médiations qui soient les plus claires de lui, qui signifient un amour. Alors, les médiations, bien sûr, qui est capable de donner de l'amour à ce point? Avec liberté, de regarder un être dans les yeux et de le voir. Et on entend souvent, et nos yeux sont empêchés de le voir. Mais de voir qui? La personne d'abord. Alors on est dans nos propres idées, nos propres affaires. Voir et aimer. Laisser agir ce cœur de notre cœur qui est de donner, qui est de pardonner, qui est de ne pas chercher à avoir raison. C'est de faire avancer un peu les affaires. Donc voilà, que dire des médiations? Alors il y en a, des médiateurs. Aujourd'hui, nous avons eu deux médiations extraordinaires. Hein, la médiation de Lucien Labertonnière, qui par sa vie et par son courage, nous invite. Et alors il nous dit aussi, alors là, Labertonnière nous dit ça, il nous dit, vous savez, ce n'est pas quand vous avez entendu une parole une fois que vous l'avez aimée, que voilà, c'est bien, puis vous passez à autre chose. Ah, il dit non. Revenez à cette parole. Elle vous a éclairé. Revenez, relisez-la, annotez-la, et revenez. Et vous allez aller comme ça. Et Teilhard, lui, en disant ça, il dit, la vie est une espèce de spirale qui monte tout le temps. On revient toujours au même lieu, mais différemment, et on avance, quoi. Alors, reprenez des textes que vous aimez, qui vous ont parlé, et ils vous parleront encore plus. Alors, et au cœur de cette médiation-là, bien sûr, celui qui est le germe par excellence, le petit livre. Quelle est la place du petit livre parmi tous nos livres, parmi toutes nos bibliothèques, parmi toutes nos pensées? Quelle est la place de cette pensée-là? Une sorte de code génétique qui va faire la vie nouvelle. Hein, lorsque Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau, il te faut naître d'en haut. Voilà, et puis donc, de quoi hein? Alors, comment faire? Parce que cette semaine, on entend des choses, on vit, on a pris du temps particulier, et puis, bientôt, on se retrouve à la maison, on va se retrouver au travail. Hein, comment faire pour que... on ne soit pas sur ce qu'on va appeler des temps forts. Hein, parfois, on va dire ça, on va vivre des temps forts. On va réfléchir, on va prier, on va vivre des temps communautaires, des temps avec d'autres. Et puis, de ces temps forts, on va se retrouver dans des temps faibles. Hein. C'est très dangereux, les temps forts. C'est très dangereux, les temps forts, parce qu'après... tout cet élément, puis vous savez, les rentrées de ces choses-là, on est là un peu dépressif, on est tout à la fois fatigué, puis on n'a plus d'élan de rien du tout. Parce que quoi? Eh bien, parce que dans les moments forts, souvent, on vit de la foi aussi des autres, des médiations des autres, et de ceux qui marchent en avant de nous, dans les premiers de cordée, hein, et qui nous entraînent à avoir cette foi, on vit... Hein. Alors, c'est de faire aussi que nous, de plus en plus, et ça c'est la croissance de nos vies, on ne soit pas de temps fort en temps faible, mais qu'on aille de temps fort en temps fort, de croissance, une vie de croissance, une vie d'avancée. Et pour ça, bien, il faut souvent faire des choix, et quand Jésus nous dit « cherchez d'abord le royaume des dieux », cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est le royaume de la bonté. vivez, travaillez, attaquez-vous à ces affaires-là, nourrissez-vous de la parole, et pour ça, c'est de faire des choix. Ça va être de faire des choix. Hein? Les choix dans notre temps, les choix, alors là, je n'ose pas en parler. Des choix par rapport à l'argent. Jésus en parle très souvent. Hein? Quand il va dire, il parle de mammon. Bien sûr que il n'y a pas un mammon, il n'y a pas un Satan, il n'y a pas. Mais c'est des, qu'est-ce qui nous écarte de quoi? Ça nous mange du temps. Ça ne nous met pas les valeurs là où elles sont. Alors voilà, c'est d'être vigilant, de réfléchir, de laisser monter en nous les convictions de l'appel intérieur. Et puis ce deuxième point qui est de notre, hein, c'est médiation, être médiation, assumer d'être médiation, parce que Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Et il va le dire. Alors là, ça sera un espèce de scandale pour les disciples quand il va leur dire, hein, la parabole, l'image de. Ce passage, hein, dans l'évangile où il leur dit « Ce que vous aurez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous avez pris soin de moi. » Et les disciples leur disent « Mais enfin, où est-ce qu'on t'a vu malade? Où est-ce qu'on t'a vu nu? Où est-ce qu'on t'a vu en prison? Eh oui, mais là... » Nous avons à être les mains, les yeux, le cœur de la bonté qui prend soin de son, de notre monde, qui prend soin de la vie. Tout est dans nos mains. Et là-dessus, ben, c'est la coopération. Nous coopérons avec notre Seigneur. Nous sommes les collaborateurs, les co-travailleurs de Dieu. Et Dieu travaille, 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 travaille. Bien. Alors, on va prendre le texte de Teilhard et de la Bertonnière, parce que sinon, on n'en ira pas au bout. Jour 6. Alors pour ce travail, donc sur particulièrement pour cette semaine, le travail sur la Bertonnière, ça fait 6 fois 3 pages de la Bertonnière pour vous, hein, pendant cette semaine, ça fait 6 fois 3, 18 pages. Et pour pouvoir avoir ces 18 pages, j'ai à peu près 150 à 200 pages de passages de la Bertonnière, donc pris dans ses œuvres. Et ce qui fait que là, dans les semaines qui vont venir, je vais voir si ça peut être édité. Parce que je trouve que ces textes de la Bertonnière, qui sont quasiment inaccessibles aujourd'hui, on pourrait l'avoir en petit volume, quoi, pour pouvoir méditer, poursuivre ce travail, hein. Parce que j'ai essayé, moi, de faire une sélection qui correspondait au thème de nos journées. Et donc, je vais penser, on va voir si c'est quelque chose de possible et comment le faire. En tout cas, donc, j'avais eu un échange avec le père Bellivert, qui est le spécialiste et l'héritier de la pensée de la Bertonnière, qui est un vieil homme, un vieux prêtre de 80 ans, et qui passe sa vie enfoui dans les manuscrits du père la Bertonnière à la Bibliothèque nationale. Et alors, je vous en avais dit un mot pour obtenir quelques photos, hein. C'est donc lui qui nous avait envoyé. Et puis, il m'avait dit, mais quel est le thème de votre session? Alors j'ai dit, le thème c'est vraiment la bonté de l'homme, réponse à l'amour fou de Dieu. Ah, il m'a dit oui, oui. Ah oui, ça c'est le thème central de la Bertanière. Alors, et c'était un encouragement pour moi de savoir que cet homme tout de suite disait, ah oui, 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 certainement. Et puis, alors il était extrêmement intéressé de dire, mais alors comme ça il y aura un petit groupe qui va découvrir la pensée de la Bertanière. Ah, ça c'est la pensée du 21e siècle. C'est sûr qu'il va percer au 21e siècle. Parce que c'est une pensée nécessaire. Alors voilà. Alors. Déjà. Et donc là, Pierre Teilhard de Chardin, on a la chance d'avoir l'édition complète, intégrale de Teilhard de Chardin. Et ça, c'est une grâce formidable. Hein. Il y a eu des protections, toutes sortes d'affaires pour que ça se fasse. Aujourd'hui, il y en a encore, il y a des cartons et des cartons, je crois qu'il doit encore, il y a une trentaine ou quarantaine de cartons complets à la Bibliothèque nationale qui n'ont pas été édités de la Bertanière. Hein, il y a encore de quoi faire. Voilà, donc de Pierre Teilhard de Chardin. Déjà, grâce à l'emprise qu'il travaillait à acquérir sur la matière, l'homme de laboratoire et d'industrie concourait très efficacement, nous l'avons vu, au prolongement et au succès du devenir cosmique. Beaucoup plus que par des transformations organiques, l'évolution se continue actuellement par des perfectionnements d'ordre psychologique. Autrement dit, ce n'est pas en s'isolant, comme on aurait pu le croire, mais en s'associant convenablement avec tous les autres, que l'individu peut espérer atteindre à la plénitude de sa personne. Plénitude d'énergie et de mouvement, et plénitude de conscience. Surtout, puisque nous ne devenons complètement réfléchis, c'est-à-dire hommes, chacun, quand nous réfléchissons mutuellement les uns dans les autres. Alors ça, c'est aussi hein, ce travail qui nous attend, nos associations, hein, vers qui aller, des critères, là où il y a plus de vérité, là où il y a plus de vie, là où il y a plus de partage en profondeur, c'est là qu'il faut aller. Là où il y a plus de lumière, c'est par là qu'il faut aller. Hein, là où il y a plus de joie, c'est par là qu'il faut aller. Et il faut élaguer des affaires et on va vers de l'essentiel. Et alors cette parole extraordinaire de Teilhard, rien ne doit rester intenté dans la direction du plus-être. Il faut se mettre au travail. Le ciel veut que nous nous aidions, mais aussi que nous l'aidions. Il faut lutter pour y voir plus clair. Pour agir plus puissamment, je me suis dit que le labeur humain sous toutes ses formes doit essentiellement être tenace, patient et doux. Hein? Plus d'une fois, Teilhard de Chardin va dire que le seul moyen qui fait avancer les choses, c'est la douceur. Pourquoi donc, homme de peu de foi, craindre ou bouder les progrès du monde? Pourquoi multiplier imprudemment les prophéties et les défenses? N'allez pas, n'essayez pas, tout est connu, la terre est vide et ferme, il n'y a plus rien à trouver. Et Dieu sait s'il y en a d'autres hein, qui nous viennent et qu'on nous dit. Et que nous dit-il? Tout essayer pour le Christ, tout espérer pour le Christ, nihil intentatum. Voilà juste au contraire la véritable attitude chrétienne. Diviniser n'est pas détruire, mais sur-créer. Nous ne saurons jamais tout ce que l'incarnation attend encore des puissances du monde. Ah. L'incarnation attend des puissances du monde. L'incarnation, c'est que, et saint Paul va le dire, il va dire, mais il manque des choses au Fils. Parce que c'est nos membres, c'est les membres, c'est quelque chose qui se perfectionne, qui va vers une plénitude, qui est le Fils. Nous n'espérerons jamais assez de l'unité humaine croissante. Lève la tête, Jérusalem. Regarde la foule immense de ceux qui construisent et de ceux qui cherchent dans les laboratoires, dans les studios, dans les déserts, dans les usines, dans l'énorme creuset social. Les vois-tu, tous ces hommes qui peinent? Eh bien, tout ce qui fermente par eux, d'art, de science, de pensée, tout cela, c'est pour toi. Alors, la manière dont Teilhard dit de ces textes, qui sont pour l'essentiel des textes qu'il écrit pendant la guerre, qu'il écrit à Verdun, et il dit, bien sûr que il y a des choses qui se clarifieront, mais pour le moment, je vous dis, des vues ardentes. Voilà ce que j'ai vu et je vous le partage. Alors, Lucien Lambertonnier. Justement, parce qu'il nous aime, il ne nous prend pas de force comme on prend une chose. Mais de notre côté, nous n'avons pas non plus à le prendre, à le conquérir comme on prend et on conquiert une chose. Nous avons à l'accueillir, à le recevoir. Et c'est ce que Jésus dit, et que Saint Jean dit, lorsque Marie de Madeleine, au moment de la résurrection, est là, et puis le prend par les pieds, le retient, et pleure, « Mon Seigneur, Jésus dit, ne me retiens pas, ne me prends pas, ne me colle pas. » Et alors, lui exposer nos besoins, c'est pour nous en prendre conscience. C'est nous les avouer. C'est en face de Dieu sentir que sans lui, nous ne sommes rien et accepter l'offre qu'il nous fait de lui-même. Par la prière, ce n'est pas Dieu que nous travaillons. Comme si on travaillait Dieu au corps parce qu'il nous oublie. Dans la prière, ce n'est pas Dieu que nous travaillons. Ce n'est pas Dieu que nous modifions. C'est nous, avec le concours de Dieu. Je dirais volontiers, par la prière, ce n'est pas Dieu qui répond à notre appel, comme s'il avait besoin d'être appelé. C'est nous qui répondons à l'appel de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Jacques va dire tout le temps. Si vous lisez l'épître de Jacques, il vous dit, mais vous ne recevez rien, mais parce que vous ne savez pas demander. Mais vous demandez des trucs, mais si vous demandez, et Jésus l'a dit, tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Et Saint Jacques nous dit, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez surtout mal. Et c'est ça, voilà ce que la Bertonnière nous dit. Par elle, nous nous transformons. Et jamais personne n'a prié sincèrement, sans éprouver qu'il se dépassait lui-même, qu'il se rapprochait de Dieu, qu'il réalisait cette similitude avec Dieu qui est tout ce que nous avons à faire ici-bas. Prier, c'est apaiser ses passions, c'est éliminer ses rancunes ou ses haines, c'est dominer ses ignorances, c'est surmonter ses souffrances, c'est puiser la force et la lumière à leur source. Et puis, cette petite phrase de la Vertonnière, « Quiconque veut être bon de la bonté du Christ, le peut en toutes circonstances. » Il n'y aura pas de moment où nous, on ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas. Non, c'est vrai. « Quiconque veut être bon de la bonté du Christ, le peut en toutes circonstances. » L'idée dominante dans le monde, c'est que contre toute injustice, il n'y a qu'à se défendre. L'irritation provoque l'irritation. L'injustice provoque l'injustice. Un soufflet donné provoque un soufflet rendu. Que de fois, il arrive que pour une injure minime, on se juge en droit, ou même on se fait un devoir d'écraser, si l'on peut, l'auteur de l'injure. C'est un cercle d'enfer. Comment sortir de ce cercle d'enfer? Ce n'est pas en se réclamant de la justice, c'est en pratiquant la charité, la générosité. C'est en consentant à subir des injustices sans s'en mériter, sans entreprendre de les rendre, ni même d'en exiger la réparation. Non point par lâcheté, non point par abandon, mais par don. Et alors, on a là les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne. On ne peut pas non plus couper des pages de la Bible, ou mettre du blanc dessus parce que c'est trop embêtant. Aimez vos ennemis si vous... vous aimez vos amis. Et vous aimez bien que... c'est sûr, mais ça, vous savez, tout le monde le fait. C'est pas difficile. Mais le Père, lui... il les aime tous. Aimez vos ennemis. Faites comme Étienne. Faites comme Jésus. Faites comme... Parce que c'est en vous. Et c'est là qu'est votre bonheur. De même que Dieu n'agit toujours en chacun de nous que comme coopérateur par générosité. Ça c'est beau, cette manière d'aborder de la Bertonienne. Nous sommes des coopérateurs par générosité. C'est par bonté en nous. Ce n'est aussi toujours que comme coopérateur par générosité qu'il nous appartient d'agir en les autres, non pas pour les faire penser, vouloir, vivre en simple prolongement ou reduplication de nous-mêmes, mais bien pour qu'ils pensent, qu'ils veuillent, qu'ils vivent en nous-mêmes pour leur compte. L'âme, l'être, la personne n'a rien qu'elle n'acquiert. Elle n'a rien non plus qu'elle ne reçoive. L'attitude orgueilleuse de « non ». Et qui plus est, elle n'acquiert, on acquiert quelque chose, on ne grandit réellement qu'en se donnant. Puisque acquérir pour l'être, pour la personne, c'est de devenir semblable à Dieu pour s'unir à lui. C'est-à-dire devenir générosité pure comme Dieu est pure générosité. La personne, l'être, l'âme, comme il dit lui, doit vivre pour autre et pour plus qu'elle, et non pas pour elle seule, parce que ce n'est pas du tout par elle seule qu'elle vit. Si elle ne s'appartenait pas, elle ne pourrait pas se donner. Mais si elle ne se donnait pas, elle ne deviendrait pas ce qu'elle doit être. Par destination, la personne est autonome autant que sociable, et sociable autant qu'autonome. Autonomie et sociabilité, bien loin de s'opposer, s'exigent. C'est par la société et dans la société que l'autonomie se réalise et que la personne trouve son achèvement. Et sans personne autonome, capable de se donner et se donnant, il n'y a pas de société vraie. Il n'y a pas de communion des personnes sans don de soi se faisant librement par le dedans. Et toujours cette petite phrase qui revient toujours. Il est vrai de dire que nous n'avons rien que nous ne l'ayons reçu. Et il est également vrai de dire que nous n'avons rien que nous ne l'ayons acquis. Aujourd'hui comme autrefois, nous avons à construire la vie individuelle, la vie sociale, la réalité du monde dans la vérité du Christ. Tâchez donc d'avoir des heures régulièrement consacrées à vous nourrir spirituellement. On prend le temps de manger. Il faut prendre le temps de penser. Et vous savez ce que j'entends par penser. Un effort continue et méthodique pour acquérir de la vérité. La providence nous met en demeure de réaliser nos personnalités spirituelles. Nous sommes en demeure de cela. Elle est intention, elle est l'intention de bonté, de générosité paternelle de Dieu qui nous aide à dépasser et utiliser les épreuves de la vie. Pourquoi, pourquoi est-ce que lorsque nous réfléchissions à ces sessions, pourquoi venir en camping? Parce que dans nos pays, en camping, ça veut dire qu'on a toutes les chances de se retrouver avec une affaire comme hier soir, un bon petit déluge, quelque chose. C'est toujours cette affaire d'essayer de voir qu'on soit le autant que possible dans la vie. Et la vie, elle est pleine de difficultés. Une session où on serait on fait tout pour qu'il n'y ait aucun problème, tout soit, ça roule, c'est extraordinaire. Ce n'est pas la vie. La vie, elle est pleine de problèmes, tout le temps. Et je suis sûr que vous ne serez pas rentré d'un jour, de deux jours, de trois jours chez vous, que déjà vous serez assailli de tas de trucs qui ne vont pas. C'est la vie. Alors, comment faire pour être aussi pleinement dans la vie au cours de ces moments forts? Il nous a semblé que le camping était un bon moyen. Parce que là, en général, on évite rarement la pluie, le chaud, le froid, les relations avec les autres, l'environnement, on est totalement dedans. Quoi. Voilà.
Mais on voulait quand même du soleil.
Un peu plus. Si la providence et l'action de Dieu est envisagée dans les événements extérieurs, qu'est-ce que c'est que la providence? Si la providence et l'action de Dieu est envisagée dans les actions dans les événements extérieurs, l'action que Dieu exerce en nous est la grâce. La grâce est donc le don que Dieu nous fait de lui-même pour nous faire agir par amour, non par contrainte. Être transformé en Dieu, à quelque degré que ce soit, ce n'est pas cesser d'être soi-même, mais c'est vouloir ce que Dieu veut. Or, vouloir ce que Dieu veut, c'est l'aimer. La vie, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Par l'amour, on se transforme en ce qu'on aime. L'amour n'est pas une prise de possession, c'est le don de soi. L'attitude à prendre pour que la vie vaille la peine d'être vécue, c'est l'attitude de ceux qui se donnent, qui entrent cordialement dans l'engrenage des solidarités pour travailler et souffrir, sans s'arrêter ni aux méconnaissances, ni aux injustices, ni aux écrasements même qu'ils peuvent subir, pour s'efforcer de toujours mieux penser afin de mieux faire et de toujours mieux faire afin de mieux penser et pour contribuer ainsi à orienter l'humanité vers Dieu. Et ça, vous savez, ce petit passage-là, c'est le testament spirituel du Père Labertonnière, interdit pendant plus de la moitié de sa vie. Produire et jeter dans l'humanité sans jamais se lasser de la lumière qui éclaire et de la bonté qui réchauffe. Et pour cela, travailler, souffrir et enfin mourir à la peine, telle est donc notre tâche. C'est celle que le Christ est venu remplir et qu'il a remplie et il a suscité l'Église pour la continuer à sa place. Alors on entendait le témoignage de le testament spirituel du Père Labertonnière, travailler, entrer dans l'engrenage des solidarités, souffrir sans s'arrêter ni aux méconnaissances ni aux injustices. Et on a dans les écrits du temps de la guerre de Teilhard de Chardin, de la même manière, où il y a cet élan incroyable de vie qu'il sent, qu'il voit, Et puis, il parle, il a des gens avec qui il peut parler. Et alors, il raconte, il écrit la détresse intérieure de voir tous ces gens ne pas comprendre, ne pas vouloir, ne pas entendre. Et il dit, mais c'est comme si je parlais dans le vent. C'est par qui je parlais dans le vent. Combien de temps est-ce que ça va être comme ça? Et il a une parole intérieure, oui, mais d'autres viendront après moi, qui reprendront ces paroles, et alors, eux, on les entendra. Alors, je crois qu'il y a tous les livres aujourd'hui publiés du Père de Teilhard de Chardin, il y a ces paroles, il y a cet amour que vous avez de lui, je crois qu'ils font partie de ces ensemencements d'une paternité qui se donne. Ce n'est assurément pas pour faire que des soufflets de plus soient donnés qu'il a été dit à qui vous frappe sur la joue gauche, offrez encore la joue droite. J'aime bien ça. Hein? Ce n'est sûrement pas pour que des soufflets de plus soient. Ça, c'est super. Mais non. Mais c'est pour marquer que le mal ne peut être réellement vaincu que par le bien. Et que seules les initiatives de générosité spirituelle sont efficaces contre les initiatives d'égoïsme charnel. Si chacun, sous prétexte de ne pas être dupe, attendait pour être généreux et pour promouvoir la réalisation d'un idéal de justice que les autres commencent, ça c'est le couple, hein, j'en reviendrai quand l'autre est revenu. C'est à lui à faire le premier pas quand même. Voilà. Il est bien clair que cela ne commencerait jamais et que les hommes en ce monde n'auraient qu'à se débattre dans le chaos des égoïsmes irrémédiablement en lutte. Voilà donc, c'était notre dernière parole pour aujourd'hui. De Lucien Labertenière. Et puis voilà comme questionnement et invitation qui va pouvoir nous servir de point de réflexion pour notre bilan, hein, puisqu'on va prendre tranquillement les uns les autres 20 minutes, une demi-heure de récolte un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine. Le bilan. Cette semaine, nous avons été au spectacle de Dieu. Il n'est pas le Tout-Puissant qu'on croit. Il est la bonté, il donne et donne encore. Il nous donne à nous-mêmes pour que nous devenions ses fils, ses amis, ses partenaires. Nous avons écouté la parole, nous avons entendu le Fils unique nous parler du sens de notre vie. Dans mon aventure d'évolution personnelle, quel est le neuf? La nouveauté apparue. Qu'est-ce qui a bougé dans ma vision, mes conceptions, mon image de Dieu et de Jésus-Christ? Nous avons été à l'écoute de deux témoins, collaborateurs de Dieu, apôtres de Jésus-Christ, en entendant Pierre Teilhard de Chardin. Qu'est-ce qui a évolué dans ma vision sur la création, le monde et la présence de Dieu? En entendant Lucien Labertenière, qu'est-ce qui a bougé sur le sens de ma vie et la relation aux autres? Je note les évolutions de mes convictions sur mon origine, d'où je viens, sur ma destinée, quel est mon avenir d'éternité, sur ma façon de vivre au quotidien. Devant l'amour fou de Dieu pour moi, quelle est ma réponse? J'écris ce que j'ai envie de dire à Dieu. En regardant demain, à quoi je me sens invité? Dans quel sens j'aurai à être et à agir? Alors, ce bilan, hein, c'est d'abord essentiellement pour vous-même, hein, c'est de ces bornes kilométriques de nos vies, c'est des lieux de pensée, de réflexion qu'on prend et qu'on reprend. Et puis, à l'intérieur de ça, ben, vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. Vous nous lirez, hein, parce que comme on est très nombreux, en un temps de 20 minutes, une demi-heure, le mieux c'est que vous restiez le plus proche de votre texte, mais vous nous direz ce que vous voudrez. Hein. Donc, ça va pour le bilan ? Bon bilan. Donc, j'ai...